Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans l'Actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes, des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Raphaël Larder de l'équipe Podcasting.
Elles font partie des burnettes.
Oui, parce qu'aujourd'hui, on est là pour parler du temps, du temps qui passe, du temps qui file, et pas toujours au même rythme.
Elles ont 35, 38 et 47 ans et sont victimes d'un burn-out. Elles ne se connaissent pas et sont toutes en arrêt maladie depuis quelques mois, voire une année.
Ce que je vous propose... Merci Juliette. Ce que je vous propose, c'est que, comme on fait d'habitude dans nos différentes activités et groupes de parole, qu'on commence par un tour de chaise. Et je vais vous demander de nous rappeler votre prénom, juste pour qu'on puisse savoir qui est qui dans cette assemblée. Et puis nous dire un peu avec quoi vous arrivez là, c'est quoi votre météo, il est comment votre ciel à vous à l'intérieur. Et puis ça sera déjà bien pour commencer. Ok ? Ça marche ?
Celle que l'on vient d'entendre, c'est Anne Malgouya. Sourire accroché aux lèvres et l'œil attentif, cette coach dans le monde du travail anime la séance d'aujourd'hui sur le thème du temps qui passe. Elle accompagne donc les adhérentes de l'association Les Burnettes dans leur combat contre la maladie. Avant de devenir coach, Anne était dans l'enseignement supérieur où elle aussi a fait un burn-out il y a quelques années. Et c'est justement parce qu'elle s'est relevée de ce combat qu'elle dirige ce genre de séance. C'est ce que l'on appelle le système de père aidance.
Bravo à vous d'être là et puis de vous accorder ce temps-là qui est rien que pour vous, là, juste pour vous. Hein, comme dit notre Vivi nationale, moi d'abord moi et toujours moi. Hein.
En fait, c'est un groupe de parole qui a lieu dans une salle au mur rose au rez-de-chaussée de la maison. Il y a des plaides, des chaises, quelques mouchoirs et c'est tout. Le plus important, c'est ce que l'on y raconte, c'est l'être humain. Pour ces trois burnettes, c'est leur moment. Elles peuvent tout dire pendant 2h30 sans être jugées à leur rythme. Les plus anciennes donnent des conseils aux nouvelles, à l'instar de Marie, 47 ans, avant de s'arrêter, comme elle dit, elle était kiné libérale.
Je suis venue pour ce groupe parce que pour moi, l'intitulé « Le temps qui passe », ça me parle énormément. J'ai une contradiction entre... le bien-être que je ressens d'être arrêtée et d'avoir vraiment besoin de cet arrêt, de sentir que c'est vital pour moi. Et de l'autre côté, le côté où ça fait 9 mois, c'est énorme pour moi. Jamais j'aurais pensé m'arrêter autant.
Et oui, enfin, je veux dire, c'est pas toujours rose, mais enfin, il y a ces moments-là où, c'était d'ailleurs l'atelier de Sophro avec Vivi où ça m'a été révélé. j'ai des bas, mais derrière j'ai des hauts en fait. C'est naze, je serais pas philosophe, je sais que ça sera pas ma reconversion.
Oui, mais la vie pour tout le monde, c'est des hauts et des bas.
Oui, voilà, mais j'étais tout le temps, j'avais peur du bas en fait. Ouais. J'avais peur de ça en fait, de me dire je sais qu'il va m'arriver un truc, et donc dans les peurs quoi. Mm. Et du coup, comment je me canalise, comment. Je reviens à la rationalité, puisqu'une peur, c'est irrationnel. Donc, comment... tout un chemin.
Ce que vient de nous décrire Chloé, 35 ans, c'est son combat contre sa maladie, le burn-out. La Haute Autorité de Santé le définit comme un épuisement professionnel qui se traduit par un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes. Santé publique France parle d'un syndrome. Ce n'est pas une maladie mentale et ça a toute son importance, nous le verrons ensuite. Ça, c'est la partie théorie. hors sol. Concrètement, pour ces trois femmes, le burn-out a été vécu comme un coup d'arrêt brutal. C'est en tout cas ce que raconte Magali, maman de deux enfants. Elle a des cernes sous les yeux, une doudoune sur le dos. Elle a trouvé l'association des burnettes sur Internet, un peu par hasard. Pendant 20 ans, elle était professeure des écoles en maternelle. Pour elle, qui était très investie dans son travail, la crise sanitaire et toutes ses conséquences ont été un choc. Elle est arrêtée depuis 10 mois.
En fait, je pense que le confinement, l'arrêt, quand il a été annoncé à la télévision que les écoles allaient fermer, ça a été un choc pour moi qui était très investi dans le travail. Voilà, je pense que ça a été le début du burn-out. Après, ça a continué avec effectivement le travail à la maison et on n'avait plus de jours, plus de week-ends. Le travail était mélangé à la vie perso. Enfin, tout ça était très très compliqué à vivre. Et ensuite, quand j'ai repris le travail, je pense que en fait, j'étais sortie de cette bulle dans laquelle j'étais. Parce que moi, j'étais avec ma classe, mes élèves. Je formais une bulle avec eux, voilà. Ma bulle avait explosé, donc j'ai commencé à voir ce qu'était la hiérarchie, ce qu'on attendait de nous, les injonctions contradictoires. Et moi, ça a été très difficile pour moi de vivre ces injonctions contradictoires. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui fait ce qu'on lui demande. Mais je savais pertinemment que ça ne me correspondait pas. Mais ça, et ça, à mettre en place, c'est très compliqué. Tout ça en garantissant le bien-être des enfants et notre propre bien-être. Et ça a été trop, en fait. Et j'ai bien vu que la hiérarchie ne soutenait pas, que la hiérarchie était... Enfin, voilà, faisait qu'appliquer, qu'on n'était pas écouté quand il y avait des soucis, que pourtant, enfin, je faisais très bien mon travail, jamais eu de problème. Mais le peu de problèmes qu'il y avait, on n'était pas soutenu, en fait. Et ça... Voilà, j'ai commencé à ouvrir les yeux sur finalement mon rôle d'adulte. J'étais plus que moi avec mes élèves, j'étais vraiment qu'est-ce que moi j'attendais de ce travail. Avant, je ne me posais pas ces questions, en fait. J'étais dans mon rythme. Et ensuite, ma classe a fermé parce que j'avais que 14 élèves, donc ça a été très très compliqué à vivre. Et là, pareil, j'étais un pion. On ne m'a pas demandé où je voulais aller. En fait, il faut faire des vœux. Et moi, j'ai besoin de voir où je vais. Et là, non, on est juste bon aller d'une école à une autre. En fait, on ne nous demande pas ce qu'on veut réellement. Et voilà, donc j'ai su aller dans une autre école. J'ai été remplaçante cette fois-ci parce que je ne voulais plus retourner dans une classe alors que j'adore les élèves, mais je voyais ça comme une prison. Je ne pouvais plus y retourner. Donc j'ai trouvé un échappatoire en étant remplaçante, en m'écartant un peu de la hiérarchie. Et j'ai tenu jusqu'au moment où j'ai dit « c'est bon ». J'ai fait le tour de ce travail, j'arrête.
Alors, pour aller mieux, Magali participe à ce genre d'atelier. Il en existe une vingtaine par mois dans la maison des Burnettes qui a ouvert l'année dernière et qui fête ses 1 an d'existence ce mois-ci. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce lieu est unique en France car il est tenu par une association spécialisée dans le burn-out et réservé a priori pour les femmes. C'est une première. Lorsque je suis arrivée dans cet immeuble de 2 étages, beaucoup des burnettes ont été surprises de me voir.
C'est vraiment un lieu ressource. Voilà, tout est travaillé au niveau de la décoration, des couleurs. Je sais que je m'y sens très bien. C'est comme un cocon. Voilà, c'est quelque chose de sécurisant. Enfin, moi, je n'ai pas de stress ici. On ne se sent pas jugé. On n'a pas besoin de mettre un masque en faisant semblant que tout va bien, que... Voilà, c'est vraiment un cocon. Pourtant, j'habite assez loin, mais j'aime bien y venir.
À l'origine de ce projet, Anne-Sophie Vive. Avant de fonder l'association, la quadragénaire aux cheveux blonds était notaire. Un 15 février 2017, sa vie bascule. Et très vite, on lui pronostique un burn-out. Un diagnostic qu'elle va garder pour elle. À l'époque, aucune structure n'existe pour la prendre en charge. Elle décrit alors une solitude extrême, une grande souffrance, une errance médicale et même une honte. Pour trouver du soutien, elle fonde un groupe sur Facebook en 2018 qui est encore actif aujourd'hui. Elle y publie ses dessins, son avatar, sa vie en vignette, l'histoire d'une femme vivant dans une société qui va toujours trop vite et dans laquelle elle ne s'y retrouve plus. À l'époque, Anne-Sophie Vive trouve même son surnom, la Burnette, un alias qu'elle ne quittera plus jamais.
L'idée, c'était de recréer du collectif dans l'isolement de ce syndrome, donc du burn-out, pour que on se retrouve pas seul et qu'on se sente pas seul à vivre ça, et qu'on se rende compte aussi qu'il y avait des similitudes dans ce qu'on pouvait vivre, et ça, de savoir que on n'est pas fou et que on a même les mêmes symptômes physiques, émotionnels, et que surtout il y a une temporalité dans la reconstruction aussi. Je trouvais ça super aidant. Donc il y a cette communauté qui a commencé à monter. Et puis rapidement, avec d'autres burnettes, on a décidé de monter une association, parce qu'au-delà du virtuel, l'idée, c'était de se voir et d'en parler entre nous. Donc c'est vraiment de cette historique, c'est vraiment un dispositif de père aidance, où à la fois de père aidance et de sororité, puisque c'était des femmes entre elles, qui se retrouvaient et qui parlaient de ces thématiques de surcharge et des conséquences en termes de santé que ça avait pu avoir pour elle, en fait.
Le groupe a du succès et en mars 2019, l'ancienne notaire crée avec d'autres burnettes l'association. Elle ne s'en contente pas d'ailleurs. Elle monte en même temps un comité scientifique composé de psychologues du travail, d'avocats, de chercheurs en question du genre et de professionnels de santé. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, le burn-out, c'est presque inconnu, et surtout chez les femmes. Elle cherche à comprendre pourquoi elles sont particulièrement touchées par ce qu'elles appellent un syndrome. C'est d'ailleurs cette problématique d'injustice médicale qui anime toujours ce groupe.
Alors en fait, il y a quand même quelques hommes qui viennent, on les accepte, hein. C'est pas sectaire, hein, mais... La base de l'association, c'était vraiment avoir cette réflexion aussi sociétale de la place de la femme dans le monde du travail, dans quelle place elle a aussi au sein des familles quand elle a accédé au monde du travail. Et donc on avait aussi cette vocation de pouvoir alerter en fait même les politiques sur les problématiques de santé des femmes. Donc il y avait vraiment ce biais-là, de chausser les lunettes du genre, parce qu'il n'y a pas d'analyse genrée en fait du burn-out. Donc on voulait vraiment prendre ce prisme-là pour comprendre ce qui se passait en fait. Donc volontairement, on a axé ça pour les femmes. Alors au final, on s'est rendu compte qu'il n'y avait vraiment pas de solution, ou très peu, et donc il y a des hommes qui nous contactent aussi, donc... Bien sûr, quand ils nous contactent, on essaye de les aider. On n'est pas structuré pour ça, parce qu'on est vraiment ciblé femmes. Et puis, on s'est rendu compte aussi que les femmes n'en parlaient pas forcément comme les hommes aussi. Il y a très peu d'études, mais il y a une étude suisse notamment qui indique qu'il y a plus de prévalence notamment d'épuisement émotionnel chez les femmes, plus de prévalence de dépersonnalisation, de comportements antisociaux chez les hommes. Plus aussi d'addiction, les crises suicidaires aussi importantes chez les hommes. Donc on n'y pas du tout la problématique pour les hommes. Mais du coup, la prise en charge, elle est un peu adaptée aussi. Nous, c'est vrai qu'on est très cocon, très sororité, bienveillance, des choses où y a un lien entre thérapie et sororité en fait, qui est analysé. Et on analyse justement la pertinence d'une prise en charge genrée en matière de burn-out.
Et les chiffres le prouvent. Différentes études montrent que les femmes sont plus stressées au travail. D'après une étude de Via Voice et Harmonie Mutuelle de 2022, 21% des femmes se sentent émotionnellement vidées par leur travail, contre 11% des hommes. Depuis janvier 2022, donc, l'association s'est déplacée dans un local. En moins de 3 ans, Anne-Sophie Vive s'est entourée de 6 autres salariés, en temps partiel, toutes victimes de ce que l'on appelle la maladie de la décennie, le burn-out. I'll be fine, bear it. Après les phases de reconstruction et de prise de conscience, vient pour les Burnett le temps de se relancer. Pas n'importe comment, pas trop vite, mais quand même dans une perspective professionnelle. Car c'est toute la force de l'association. On répare, on discute, puis on se prépare pour la suite. Elles étaient 270 adhérentes en 2022, elles sont déjà une centaine en 2023. Et il y a aussi une promotion un peu spéciale qui suit intégralement le programme. Elle s'appelle Burnett is Back.
C'est vraiment ça. On a découvert de l'asthme cet été. J'en ai jamais fait.
Okay.
Et je suis allée voir un pneumologue. Il me dit, vous êtes asthmatique. Je fais, c'est une blague.
Au premier étage, elles sont donc 13 à suivre ce cours et aujourd'hui, elles sont venues aborder la question des traumatismes provoqués par le burn-out. Passage obligé avant de se relancer. Un grand bouquet de fleurs séchées trône au-dessus de la pièce. Assise sur une chaise plus haute que les autres, la psychologue du travail, Laure Farinol, est chargée d'animer cette séance. Il faut parler de ce qui ne va pas, mais surtout laisser entrevoir un bout à ce tunnel.
Et ça ne veut pas dire que dans 6 mois, vous n'êtes pas reparti.
En plus, il ne
faut pas nous faire rêver. Hein.
La dernière personne que l'on vient d'entendre, c'est Claire Plaza. Elle est chargée de programmes chez les Burnett. Après des années à subir une grande pression dans des entreprises de mode, son corps a lâché. Elle a fait beaucoup de chemin depuis pour s'en remettre et aujourd'hui, avec un peu de recul, elle peut donner son analyse sur les causes qui amènent à cet épuisement, à ce déséquilibre soudain.
Déjà, il y a quelque chose de culturel. C'est dans les valeurs socialement communes et acceptées, on valorise le travail, on valorise la performance, on valorise la charge et l'occupation et on dévalorise l'oisiveté. Enfin, il y a quelque chose de très valeur chrétienne un peu dans le truc, mais et en fait, le fait de prendre soin de soi, de prendre du temps pour rien faire, ne serait-ce que pour bien se reposer, c'est des choses qui sont connotées très négativement et encore là. Et pourquoi on se retrouve en groupe et on pleure ? Parce que en fait, le ressenti émotionnel, il est ultra intense. Ce qui se passe, ce que ressentent la plupart des personnes qui vivent un burn-out, c'est un effondrement. C'est il y a un jour, je me prends un truc dans la gueule et je suis plus capable de rien. Et en fait, ce que je comprends petit à petit, c'est que la manière dont je fonctionnais jusque-là, elle était non seulement pas bonne, mais en plus, elle était nuisible pour moi. Et donc, tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais faire, toute la manière dont je fonctionne jusque-là, je sais que je vais plus pouvoir l'utiliser. Mais pour autant, comment il faut faire, en fait ? J'ai pas appris à prendre soin de moi. J'ai pas appris à pas travailler beaucoup. J'ai pas appris à me dire merci et bravo quand je travaille pas. J'ai pas appris. Et il y a ce vide là. Ok, maintenant je fais quoi ?
C'est un peu pour répondre à cette question du maintenant je fais quoi que les Burnett existent. Certes, les adhérentes suivent un programme savamment élaboré. Elles discutent avec des psychologues, des coachs, des personnes formées, des professionnels de la santé. Mais le plus grand avantage, finalement, c'est celui de se retrouver entre femmes victimes de burn-out, de créer une bulle face au décalage souvent subi avec ce qu'elles appellent le monde extérieur. Dans tous les témoignages que j'ai entendus, celui de Marie, la femme de 47 ans que l'on a écoutée au début de l'épisode, m'a semblé le plus juste. Le burn-out, c'est peu connu encore et il ne laisse sur les corps aucune trace visible. Ce n'est ni une dépression, ni un deuil, ni un coup de blues, ni un coup de mou. Souvent, les personnes victimes de burn-out ont du mal à faire comprendre à leur entourage les symptômes. Et en France, cet épuisement n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle. La double peine. Il faut prouver aux institutions et au monde entier que l'on va mal. Le décalage avec la société qui les entoure est donc si soudain, si brutal, qu'elles envisagent parfois le pire pour arrêter de souffrir.
Autour de nous, c'est pas écrit qu'on est au fond du trou, qu'on est cramé de l'intérieur, ou qu'on a explosé à l'intérieur.
Le nombre de personnes que j'ai accompagnées qui me disent « j'aurais préféré me casser une jambe
». Pour m'arrêter, je réfléchissais à savoir comment je pouvais me casser une main ou une jambe. Pour avoir quelque chose de légitime et de visuel.
Un genre d'excuse.
Je ne pouvais pas m'arrêter. Ouais. Je voyais que j'en pouvais plus, mais je ne pouvais pas m'arrêter.
Ouais.
Et c'est ça, dans le temps qui passe, c'est que, oui, on le disait tout à l'heure, t'as bonne mine, tu rigoles. Oui, heureusement, parce que j'en ai besoin de rire. C'est ça qui va me monter aussi et qui va me retrouver être moi-même. Parce que toi, c'est ce que tu ressens. Et moi, j'ai l'impression de m'être oubliée, en fait, d'être partie dans un engrenage, une spirale infernale, et puis de plus me reconnaître. Je dis, mais je suis qui, moi? Voilà. Et moi, entre autres, j'aime rire, j'aime le contact, etc. Et j'avais l'impression d'avoir un masque.
Depuis la crise sanitaire, les ateliers et les séances se remplissent vite, trop vite pour l'association. Alors, les Burnettes vont créer d'autres maisons en France, comme celle-ci, pour répondre aux demandes de plus en plus nombreuses. Parce que la recette fonctionne. Certes, les taux de rechute frôlent les 45% pour les femmes qui retournent trop tôt au travail, mais Anne-Sophie Vive a bien insisté sur cet aspect, il faut savoir prendre son temps. Beaucoup des Burnettes trouvent dans cette épreuve de nouvelles raisons d'espérer. À l'instar de la fondatrice, une grande majorité des victimes de burn-out effectuent une reconversion. Un domaine auquel elles n'auraient jamais pensé avant. Le burn-out, en fait, ça se soigne.
Et oui, on peut s'en sortir. Et c'est là où la paire aidance, elle a toute sa puissance. C'est qu'on voit un peu, on se projette dans la reconstruction de l'autre. C'est-à-dire que quand on est... dans le plus sombre du début du burn-out, en fait, on se rend compte que y en a d'autres qui s'en sont sortis, qu'il y a des étapes à respecter, parce qu'il faut pas brûler ces étapes, qu'il faut y aller vraiment progressivement, et que à la fin, il peut y avoir justement c'est le moment, en fait, on n'a pas souvent cette occasion-là de faire une pause dans sa vie et de se dire ok, qui je suis, qu'est-ce que j'aime. C'est quoi la vie que j'ai envie de mener, la place que j'ai envie d'avoir dans le monde. Enfin, voilà, il y a toute une réflexion qu'on peut avoir à ce moment-là, et pour redéfinir le reste de ces années. Donc, c'est un moment super important et qu'il faut pas, il faut avoir ce temps de pause, de réflexion sur soi-même. Pour savoir ensuite qu'est-ce qu'on va faire.
Outre sa structure, Anne-Sophie Vive conseille de consulter un psychologue ou un psychiatre en complément du programme. L'équipe de podcasting souhaite rappeler aussi qu'il existe un numéro vert pour accompagner les personnes qui souffrent au travail, le 0800 13 00, le 0800 13 00.
Merci Raphaël Larder. C'est la fin de cet épisode de podcasting, merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garaïco-Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.